Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School, et puis Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à BFM Business, BFM TV, RMC. Cet auditeur qui s'appelle Andy Nono me dit pour l'instant il reste en poste, monsieur Draghi. On est bien d'accord, pour l'instant il reste en poste. Oui. Il se passe quand même un truc là-bas. Voilà. Et il y a Bull Market qui accuse le plan de relance de Biden d'avoir tout déclenché. Voilà. Italie, justement, Nathalie Janson. Comment vous voyez l'histoire, même si, encore une fois, elle n'est pas écrite totalement, mais...
Ouais, c'est vrai qu'il y a un scénario du pire, c'est de voir Mario Draghi s'en aller. Ah. Et c'est une possibilité.
Oui.
Voilà. Donc, maintenant, c'est... Il est certain que... Enfin, en Italie, il perdrait beaucoup à le voir partir, puisqu'effectivement, ça déclencherait sans doute une augmentation significative du spread, là, pour le coup, de l'Italie, étant donné que c'est, comme on l'a dit juste avant la pause, c'est effectivement l'homme fort. Enfin, c'est une garantie. Et le voir s'en aller, c'est un sentiment d'échec par rapport, effectivement, à cette situation politique qui est assez difficile en Italie, mais ça, c'est pas nouveau, je dirais.
C'est pas nouveau.
Voilà,
c'est d'ailleurs une des raisons du risque italien.
Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, il couvre de l'extrême droite à l'extrême gauche et que c'est extrêmement compliqué de pouvoir mener et avoir à chaque fois le vote de confiance sur les différentes, puisque là, c'est ce qui s'est passé. Hein,
c'est ça.
Parce qu'au Sénat, ils n'ont pas eu le vote de confiance. Donc, du coup, Mario Draghi, comme lui, il avait dit qu'il ne pouvait gouverner que si tout le monde était derrière lui. Eh bien, voilà, pour donner une impulsion, justement.
Mais Nathalie, on a failli faire crever l'euro avec la Grèce. On imagine s'il y a un dérapage soudain, une dégradation souveraine de l'Italie. Qu'est-ce qui se passe ?
Ah ben là, effectivement, on est dans une autre dimension par rapport à la Grèce.
C'est pour ça que je vous dis que la question, elle va se reposer.
C'est fort probable. On en parlait déjà, de toute façon, avant le Covid. Hein, il y a eu plusieurs fois où on en a parlé. Donc oui, de toute façon, l'Italie reste... alors même si elle s'en tire toujours, parce que c'est un peu quand même toujours la même histoire en Italie. Hein, ça fait très longtemps qu'elle a sa dette au-dessus de 100%. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, je crois que ça date de presque 20 ans, non ? Quelque chose comme ça. Elle n'a jamais eu sa dette, je crois, en dessous, même au moment de la formation de l'euro. Donc c'est pas non plus comme si c'était la fin du monde. Le problème, c'est que à force de tirer, et si jamais effectivement la situation économique ne s'enlise là-bas, plus on est dans des niveaux de dette élevés, plus en fait on compromet la capacité de maintenir un endettement public élevé. En fait, c'est ça le problème.
Je ne sais pas, prenez le pari qu'on mourra avec l'euro dans notre poche, Emmanuel Le Chypre. Moi, je me pose la question parfois. Non, mais on va pas s'abuser. On fait comme Jacques Attali, j'avais adoré. Jacques Attali avait dit, l'euro a une chance sur deux de survivre. Donc s'il survit, il avait raison. S'il survivait pas, il avait aussi raison.
Voilà. C'est très mais il chance. A toujours raison.
Il a une chance sur deux, c'est génial.
Non, mais après, il y a beaucoup de choses. Quand vous faites l'histoire, effectivement, des grandes unions monétaires, il y en a beaucoup qui
se sont arrêtés,
qui n'ont pas survécu, notamment à cause des fameux triangles d'incompatibilité de Mundell entre vous pouvez pas, en gros vous pouvez pas avoir, vous pouvez toujours avoir trois objectifs, mais vous ne pouvez jamais en réaliser que deux en même temps. Après, on voit quand même que l'euro de 2002. C'est dans l'union monétaire de 2002, c'est plus du tout l'euro de 2022 dans l'union monétaire de 2022.
Oui.
C'est-à-dire que regardez quand même. Alors attention, à coup de crise, à coup de récession, etc. On a quand même modifié les structures de l'union monétaire de façon absolument considérable. Et après, il y a des.
Quand vous dites modifier les structures, c'est tous les outils.
Ah bah regardez tous les outils qu'on a créés.
On a flexibilisé.
Stabilité,
inventé. monnaie pour créer de la solidarité monétaire et financière qui sont toujours indispensables dans une grande union.
Le problème, c'est qu'on commence à avoir une banque centrale qui fait de la politique budgétaire pratiquement.
Monétaire. Ça. Oui, mais ça, c'est différent. Enfin, je veux dire, regardez, la question se pose aussi au Royaume-Uni, elle se pose aussi aux États-Unis. Donc, si vous voulez, il faut bien distinguer les questions qui sont strictement relatives à la logique de l'union monétaire et les questions qui sont relatives à l'ère du temps et aux défis qui se posent pour les banques centrales dans l'ère du temps. Le grand sujet, pour moi, qui est peut-être même plus important que union monétaire ou pas, entre parenthèses, regardez, enfin, je pense que ce qui se serait passé si on avait chacun eu des monnaies nationale, objectivement,
quoi qu'il en coûte, ça aurait été sympa.
Je pense qu'on peut pas dire qu'on ait été perdant globalement.
Ah non, tout à fait. Je pense que bon nombre de pays ont été gagnants à travers l'euro.
Ce que je veux dire, c'est que les grandes problématiques aujourd'hui sur la politique monétaire et les banques centrales, c'est beaucoup plus des problématiques du genre banque centrale indépendante ou banque centrale nationale, etc. Oui, voilà, mais c'est ça à la limite le degré. Parce qu'il y a quand même eu ce grand mouvement de balancier vers l'indépendance, où là, en fait, l'argument principal, c'était quand même de dire, si les banques centrales sont indépendantes, en fait, la réalité, c'est qu'on a un bouc émissaire parfait pour nos problèmes, grosso modo. Et donc, ça lui permettait, sachant que les expériences précédentes, type, regardez, par exemple, la réserve fédérale des années 70 d'Arthur Burns, etc., c'est une Fed qui est affiliée au pouvoir politique, qui laisse l'inflation s'en aller, et qui restaure la crédibilité, c'est effectivement Paul Volcker, etc. Et c'est là qu'après, il y a eu cette idée que s'est développé quand même ce grand mouvement de banque centrale indépendante. Est-ce qu'on va revenir sur ces questions-là? Ça me paraît plus urgent ou plus prégnant dans le débat que la question de l'union
monétaire. Ça me fait marrer quand on parle de banque centrale indépendante.
Ah, mais elles ne sont pas, justement. Ça a été la grande illusion.
Officiellement, si, mais c'est la grande illusion.
Mais c'est la grande illusion. En fait, on s'est aperçu que finalement, elles ne sont pas. Les États-Unis, elles ne l'est pas puisqu'ils ont un mandat qui va s'ajuster aux circonstances économiques, donc elles n'y est pas. Et nous, la Banque Centrale Européenne, qui était effectivement donnée comme une des plus indépendantes puisqu'elle avait un mandat effectivement hiérarchique avec la stabilité des prix, et bien avec tout ce qu'on a évoqué précédemment, c'est-à-dire que on est avec Mario Draghi, avec ce whatever it takes, et puis aujourd'hui avec le système anti-fragmentation, c'est terminé. On n'a pas d'indépendance, il n'y a aucune indépendance là-dedans.
Et c'est, dans politique monétaire, il y a politique. Hein.
Voilà, exactement.
La Banque Centrale fait vraiment de la politique, on a fusionné la monnaie et les budgets.
Non, mais il faut être clair sur les termes. C'est-à-dire que quand on dit que les banques centrales sont moins indépendantes des pouvoirs politiques, c'est pas tellement qu'elle sait qu'il y a un rapport d'autorité qui s'est créé, etc. C'est juste simplement que de fait les États, avec leurs dettes absolument considérables, ont pris en otage
la banque centrale
et qu'elle est complètement prisonnière aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté vous avez des marchés extrêmement surévalués, de l'autre vous avez des États extrêmement endettés. Comment vous faites pour remonter les taux
étant donné que c'est la banque centrale qui a permis l'endettement et la surévaluation, effectivement c'est compliqué
C'est compliqué. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que, parce que quand Nicolas disait mais si on l'avait pas fait ces politiques au moment où on les avait fait, sauf que quand même à chaque fois ce qui s'est passé, c'est qu'il y a toujours eu des fenêtres après ces crises dans lesquelles on aurait pu effectivement
on n'a jamais fait.
C'est très reproché aux États-Unis. Ça, c'est un thème, c'est beaucoup plus présent dans le débat. Le fait du timing, en fait, qui est reproché. D'ailleurs, à une conférence aux États-Unis à laquelle j'ai assisté il y a quelques semaines, il y avait justement l'économiste Romer qui montre son speech était sur ça, justement, sur le fait que le timing n'était pas bon, et elle reproche en fait à la Banque Centrale Américaine de ne pas avoir bien géré ce timing.
Emmanuel Macron hier était dans les jardins de l'Élysée pour accorder une interview, et il a clairement remis sur le métier la réforme de l'assurance chômage. Bon, elle a déjà été réformée, mais on sent qu'il veut aller plus loin, donc reprise en main par l'État, et probablement touchée au dernier paramètre qui n'a pas bougé, c'est-à-dire la durée d'indemnisation. Ça rappelle un petit peu le rapport de trois économistes du Conseil d'analyse économique, c'était en 2021, qui considéraient qu'il fallait effectivement aller plus loin dans la réforme de l'assurance chômage, en faisant évoluer à la fois les montants et la durée d'indemnisation en fonction de la météo. Quand le chômage est là et que ça se dégrade, eh bien on indemnise un peu plus longtemps avec un peu plus d'argent. À l'inverse, quand il y a des créations nettes d'emplois et qu'on est en plus en pénurie de main-d'œuvre, on indemnise moins longtemps et on baisse les montants d'indemnité. Et tous les pays à commencer par l'Allemagne avec les lois Hartz qui ont réformé l'assurance chômage, ont tous réduit la durée d'indemnisation. Il est certain que si une mesure comme celle-ci était proposée, ça passerait pas sans heurts. Et dans le même temps, Emmanuel Macron réaffirme son projet de réformer le RSA, c'est-à-dire d'accorder cette indemnité, mais contre des heures de travail obligatoires. Et Emmanuel Le Chypre, il a sorti la bonne phrase qui fait causer depuis hier. Il y en a quand même qui se disent « je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie ». Voilà un peu l'ambiance qui est ressortie hier de ce qu'il appelle, lui, pas la réforme de l'assurance chômage, mais la réforme du marché du travail. Comment vous avez entendu les messages prononcés? Comment vous les appréciez?
J'ai trouvé tout son propos sur le marché du travail extrêmement ringard, en fait. Je l'ai trouvé dépassé. C'est des propos qu'il aurait dû, ou qu'un dirigeant français aurait dû tenir, effectivement, par exemple, au moment où il y a eu les réformes Hartz, mais sauf que les réformes Hartz, c'était quand même il y a 20 ans.
2002, oui.
Voilà. 2003. Et on est encore sur toutes ces logiques-là. Alors, reprenons toutes les phrases. Par exemple, j'ai bien aimé la phrase, c'est quand même pas normal que quelqu'un, finalement, se mette au chômage et prenne du temps pour réfléchir à sa vie. Bon, moi, je sais pas, quand je lis la littérature économique, ce que je vois, c'est qu'en fait, la France est, par exemple, le pays dans lequel il y a le plus de gens qui sont trop qualifiés par rapport à l'emploi qu'ils occupent. Et quand vous regardez les travaux des économistes sur le gaspillage de capital humain que ça représente de prendre un boulot pour lequel on est trop qualifié, vous vous dites quand même, c'est justement l'intérêt d'avoir des allocations chômage assez élevées, de permettre à ceux qui ont des qualifications, des compétences, de s'interroger sur le meilleur emploi possible pour leurs compétences. Et surtout, est-ce que ça leur donne les moyens d'aller chercher cet emploi qui répond le mieux à leurs compétences et qui, du coup, au final, créera le plus de richesse. Moi, je me rappelle des travaux déjà de Javier Ortega, par exemple, qui était un économiste catalan qui travaillait à l'école d'économie de Toulouse, qui disait « mais le chômage doit être bien indemnisé parce que c'est la meilleure condition pour reprendre un emploi. » C'est-à-dire que si vous devez pouvoir vous déplacer pour aller à un rendez-vous, etc., etc., il faut avoir les moyens de chercher un emploi.
C'est l'histoire de la durée de...
Non, mais d'abord, l'histoire, donc ça, cette histoire de...
La durée d'indemnisation.
Je réfléchis aujourd'hui, c'est fondamental pour une meilleure allocation du capital humain de permettre aux gens de réfléchir à leur vie. Donc déjà, je trouve que cette remarque, elle est has-been. Le côté s'acharner sur l'indemnisation du chômage. Bon, faut bien voir, si on est honnête, que quand vous mettez bout à bout toutes les réformes qui ont été faites ces dernières années, les réformes El Khomri, les réformes Pénico, on a réformé le marché du travail par rapport à toutes les critiques qu'on faisait. D'abord, c'est les plus
grandes... Sur les conditions de licenciement.
C'est les plus grandes réformes du marché du travail depuis les lois Auroux de 82, donc c'est considérable. Et je veux dire, allez, pour aller jusqu'au bout, finalement, d'un marché du travail qui corresponde à ce qu'il est à peu près chez nos voisins, allez, il reste quoi, 20% du chemin à fournir. Et je suis d'accord, peut-être qu'en réduisant la durée d'indemnisation, ça fait qu'il y aura peut-être des gens qui attendront moins et qui vont prendre un travail. Mais c'est plus ça le sujet.
Quand même, attendez. Je vous laisse continuer. Stéphane Carcillo, qui est quand même pas dogmatique.
Oui.
Votre téléphone vibre, Manuel, sur la table. Il faut pas laisser. Stéphane Carcillo, qui est pas dogmatique, explique quand même.
C'est vrai.
Attendez, je termine. Il explique quand même que les travaux académiques démontrent qu'il y a un phénomène quand même un peu d'hibernation jusqu'aux 6 derniers mois.
Mais ça, c'est...
Alors, que réduire la durée d'indemnisation, le nombre de mois d'indemnisation serait un paramètre.
Ça, c'était vrai notamment sur les cadres, et notamment les cadres qualifiés, parce qu'on voyait bien que dans les 15 derniers jours, ils reprenaient tout ça, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le plein emploi, on y va, mais c'est une autoroute. Donc, le plein emploi, quand vous regardez la démographie, quand vous regardez le contenu de la croissance en emploi, quand vous regardez toutes les tendances, le plein emploi, c'est demain. Donc, qu'on s'acharne sur le sujet uniquement de l'indemnisation du chômage, moi, je trouve ça has-been. Bon. Donc, voilà. Et on ferait mieux de s'interroger sur les vrais sujets. Alors, par exemple, il y a des choses positives dans la réforme qui est prévue. Par exemple, sur Pôle emploi, quand on nous dit on veut un guichet unique. Mais j'espère juste que c'est bien plus que ça. Parce que vous avez, par exemple, vous citiez les rapports du CAE, il y en a un qui vous dit, effectivement, une des raisons du chômage en France, dans cette inadéquation entre l'offre et la demande, c'est que d'un côté, il y a des entreprises qui savent mal chercher, et de l'autre côté, des salariés ou des chômeurs qui cherchent mal, etc. Donc oui, il y a quelque chose à faire du côté des organisations qui finalement sont chargés de mettre en adéquation tout ça. Très bien, allons-y. Et puis alors l'idée la plus stupide, qui est quand même l'idée la
plus... le RSA.
Ah bah oui, ah bah oui. Uh-huh. Franchement, mais reprenez. Enfin, oui, mais alors, à chaque fois, enfin prenez le RMI. Il y avait insertion, ça n'a jamais fonctionné.
Voilà, c'est ce que le RMI vous dit.
Et la réalité, c'est que là-dedans, on veut pénaliser des chômeurs qui ne travaillent. Mais la réalité, c'est que c'est à chaque fois l'État qui ne tient jamais ses promesses. C'est-à-dire parce que quand vous voulez revenu de solidarité active, c'est très bien. Mais la réalité, c'est que le A, on le propose jamais. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme
c'est
si...
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne va rien se passer.
En gros, c'est la faute de l'État si l'État ne tient pas ses promesses sur la partie reprise d'activité. Et c'est aux gens qu'on demande d'aller faire des boulots. Alors, je vous le dis tout de suite, ce sera quoi ? Ça ne pourra pas être des boulots dans des entreprises privées, sachant que ça pose tout un tas de problèmes d'éviction du marché du travail, d'activités vraiment salariées. Ce sera encore dans des associations, dans des trucs. Et là, je vous renvoie aux travaux de... j'oublie son nom. J'oublie son nom. Et qui vous dit que l'employabilité des gens qui font... Ces petits boulots d'insertion est plus faible à la sortie qu'à l'entrée. Francis Cramart, voilà. Voilà. Et donc, si ça, vous voulez, je l'avais donc ça, c'est vraiment l'idée la plus. Ça, c'est vraiment. Alors, number one des idées ringardes, c'est celle-là.
Mais de toute façon,
la contrepartie travaille sur le RSA et vraiment mettons le paquet sur. Alors, il l'a fait Emmanuel Macron hein, sur la formation, l'apprentissage. Il a fait des choses. Je dis pas le contraire, mais vraiment tout ce qui a été énoncé hier, ça aurait pu être l'interview du 14 juillet de l'an 2001 ou 2002.
Bon, vous voyez. Ça, il y avait le petit parfum assistana derrière qui parle à l'oreille d'une partie
mais
de l'opinion.
Oui, mais c'est pas le problème de l'indemnité du chômage.
Non, mais d'accord.
Le problème, c'est l'ensemble des dispositifs d'aide qui font qu'effectivement, il y a une problématique de coût de reprise du travail pour beaucoup de Français.
Mais l'histoire du RSA, ça verra pas le jour, exactement pour les raisons que vous indiquez. On n'a pas la machine derrière pour faire bosser les gens. Donc, de toute façon, et d'ailleurs, on se rend compte que le contrat engagement jeune, qui suppose lui aussi à peu près la même chose, bah, il faut que les missions locales et que Pôle emploi soient opérationnelles. Il n'y a pas les effectifs pour... Vous voulez rajouter quelque chose, Nathalie Jourdan?
Juste qu'effectivement, il n'y a pas le système d'accompagnement qui va avec. C'est-à-dire qu'on a des ambitions et qu'en fait, on n'arrive pas à le faire au niveau de l'État. Donc
c'est
après...
pas faute d'avoir de la dépense publique.
Exactement.
Hein. Et donc, des effectifs.
On peut, tout à fait. Alors, soit, en effet, on essaye de faire en sorte de réformer cette partie-là, mais j'y crois peu. Soit, à nouveau, on en passe par l'utilisation de structures privées pour que ce soit réellement fait. Et là, on va se retrouver encore avec des histoires de oui, mais c'est le privé qui prend le relais, oui, mais parfois, le privé est plus efficace que le public. Et d'ailleurs, dans l'adéquation informationnelle, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que dans le public, on a des problèmes clairs d'information qui n'est pas très claire. Et puis, on n'a pas aussi évoqué le problème de la mobilité géographique qui met une couche, donc le logement.
Enfin, logement.
C'est un vrai frein.
C'est vrai. Monsieur Lechypre, président, m'écrit Victorien. Il écrit... voilà. Enfin, quelqu'un qui prend en compte la démographie.
Bien sûr, et si on regarde effectivement les vraies spécificités du chômage français, il y a effectivement cette problématique...
Manque de mobilité.
Du manque de mobilité. Il y a cette problématique du logement, c'est-à-dire à la fois le logement cher quand vous êtes dans des villes chères et à la fois l'incapacité parfois de vendre la maison dont vous êtes propriétaire dans des endroits où ça ne vaut plus rien et en gros et vous êtes scotché dans cet endroit, voilà. Et puis quand même, juste pour faire plaisir à mon amie Nathalie, le manque de concurrence. Le manque de concurrence, c'est entre 500 000 et 1 million d'emplois. Si on avait le même niveau de concurrence dans tous les secteurs habituels, on parlait des taxis la semaine dernière avec Uber, etc. Si vous mettez le même niveau de concurrence que partout, c'est 500 000 à 1 million d'emplois en plus. Et je cite juste cette étude de Indeed sur justement le refus d'emploi, etc., qui est très intéressante. 40% des salariés ont déjà refusé un emploi parce qu'il n'était pas assez payé. 30% sont prêts à accepter un travail, même s'il est moins bien payé que leur chômage. Et vous en avez quand même 70% qui ne veulent pas, et pas seulement pour des raisons financières, et parce qu'ils estiment que c'est faire des mauvais choix de carrière et qu'il leur sera difficile de rebondir par la suite.
Oui.
Ça, c'est des problématiques modernes, ça.
Oui, tout à fait. Et c'est le problème de l'adéquation des compétences. Et c'est vrai qu'en France, et à mon avis sans doute partout ailleurs, c'est si vous commencez à prendre un emploi qui correspond pas à votre niveau, effectivement vous êtes enfermé en fait.
Non, mais on s'est rendu compte avec Covid là, les jeunes risquaient effectivement de démarrer une vie professionnelle de manière dégradée, et cette dégradation vous la traînez.
Et là franchement en France, je pense qu'on est plus accentué. Bon, je suis pas une spécialiste, je vais pas m'avancer sur ce sujet, mais effectivement votre prise de poste au départ avec le salaire que vous avez vous conditionne beaucoup la suite. Et il me semble que la France est assez particulière là-dessus.
Et encore une fois, alors pour le coup, le Covid a quand même changé la donne partout. Et juste pour souligner que cette histoire de pénurie de main-d'œuvre, c'est un phénomène qui n'est pas que français, c'est un phénomène qui est partout. C'est-à-dire que partout dans le monde, la crise sanitaire a abaissé les conditions d'acceptabilité de la pénibilité d'un travail.
Et ça,
c'est sociologique, c'est sociétal. Et ça, il faut que partout dans le monde, on en tienne compte. Donc l'idée que, quel que soit mon truc, si je veux un boulot, si je veux un salaire, j'ai qu'à traverser la rue, etc. Ça, c'est quand même des trucs qu'on devrait plus entendre.
Nathalie Janson, je la connaissais pas, cette boîte, un prêteur en crypto qui s'appelle Celsius Network, Chapter 11, c'est tous les jours. Tous les jours, on a des courtiers, des intermédiaires de cet univers. Enfin, le système crypto prend l'eau. Là, je sais que vous êtes fan et vous défendez l'univers de la crypto-monnaie, que moi, je vais appeler crypto-actif. Mais enfin, on se dit, ça va où, là?
Alors, on va prendre les choses. Il est clair que là...
Elle a 8 minutes
pour défendre...
Non, vous me gardez 2-3 minutes pour m'expliquer à quoi sert une devise numérique Banque Centrale.
Bon, ça sera beaucoup plus rapide. Non, Celsius, effectivement, c'est un... Donc ça fait partie de l'univers de la finance décentralisée. Comme pour l'univers crypto, l'idée, c'est de se passer d'intermédiaire par la crypto. Et c'est, si vous voulez, c'est un peu comme l'idée que là, on va essayer de prêter de l'argent. Quand on prête de l'argent dans notre système traditionnel, soit on a les banques, soit on a un marché financier, d'accord ? Le marché financier, il a des conditions, voilà, tout le monde ne peut pas aller sur le marché financier parce que vous avez des obligations de publication de résultats financiers pour que l'information soit relativement publique et que les investisseurs puissent se faire une opinion de la qualité de votre signature. D'un autre côté, on a les banques qui, elles, vont faire, eux, leur propre analyse. Et voilà, ça, c'est notre monde traditionnel.
Le monde ancien.
Voilà. Ce qu'apporte en fait la finance décentralisée, c'est de dire, on va essayer en fait de faire en sorte que ceux qui peuvent pas aller sur le marché financier parce qu'ils n'ont pas cette possibilité de publier autant de choses, eh bien, aient quand même une vitesse d'exécution et d'obtention de financement. Et là, sur la base en fait, surtout de prêts collatéralisés. Donc, ça veut dire quoi un prêt collatéralisé ? C'est-à-dire que quand j'emprunte, je vais utiliser en fait une espèce de gage comme ça. Au moins, celui qui va me prêter, il est sûr qu'il aura quelque chose au cas où moi je ne rembourse pas. Donc, le prêt collatéralisé, c'est quelque chose qui s'est énormément développé depuis sur les marchés financiers également, partout, parce qu'en fait, ça vous permet de substituer la qualité du collatéral à votre signature. C'est-à-dire que si vous êtes finalement pas si bien que ça, votre collatéral étant très bon, du coup, vous bénéficiez de meilleures conditions de financement. Voilà. Donc ça, c'est...
Parfaitement clair.
Donc la finance décentralisée, elle fonctionne comme ça. Donc du coup, on va collatéraliser les prêts. Donc en général, on collatéralise avec de la crypto, puisque on est dans le monde de la crypto. Et ce qui s'est passé pour Celsius, c'est tout simplement que ça fait partie effectivement de ces nouvelles aventures. Et comme dans toutes nouvelles aventures, parfois il y a des mauvaises gestions qui vont avec. Pas forcément, je pense, c'est pas un abus de leur part. Je pense qu'ils ont tout simplement fait face à une croissance énorme. La croissance en fait l'augmentation des fonds qui sont arrivés sur Celsius a été considérable en 2021, puisqu'on en avait parlé, ça a été vraiment l'année où tout le monde a voulu investir dans le monde crypto. Et en fait, tout simplement, ils ont mal géré en fait l'arrivée de ces fonds.
Monde des cryptos était resté aussi dynamique, aussi brillant, aussi séduisant qu'en 2021, ils seraient peut-être pas dans cette situation-là. J'ai l'impression que ça prend l'eau quand même. Vous voyez ce que je veux dire?
J'irai pas jusqu'à dire, évidemment, ça baisse pour plein de raisons. Parce qu'en plus c'est lié à des histoires de recomposition des portefeuilles, de risques, de taux d'intérêt. Donc forcément, eux, ils prennent parce que la montée de leur prix, effectivement, elle a été aussi générée par le contexte de taux négatifs et de politique de banque centrale. Donc forcément, le réajustement à la baisse des prix, il a été relativement sévère et il impacte effectivement ces plateformes de prêts de prêts décentralisés parce que, eux aussi, ils apprennent, c'est-à-dire que face à une montée des fonds qu'ils avaient à gérer, ils se sont précipités sur le prêt à certains projets qui se sont révélés en fait mauvais. Donc si vous voulez, c'est une mauvaise évaluation des et donc quand on est dans un secteur,
vous parlez toujours ça avec beaucoup de tranquillité, comme si tout allait bien se passer. si mais c'est pas la première fois qu'on
parle parce qu'il y a pas de monde merveilleux.
Voilà, exactement.
C'est pas Alice au pays des merveilles ou
complètement.
Voilà, donc, quel que soit le système, il y a rien qui vous permet de gagner à tout prix.
Exactement. Et il expérimente.
Les faillites, les mauvais choix stratégique.
Moi j'espère ça juste, effectivement, j'espère juste que de pas avec cette crise, eh bien, il soit mis en place. Alors, moi je souhaite pas tant que ça dans la régulation, mais dans l'auto-régulation du système, c'est-à-dire que les systèmes apprennent de leurs erreurs et qu'effectivement ils mettent en place, parce qu'il n'y a pas en place, par exemple pour les utilisateurs quand on leur gèle les fonds. Ça, c'est des choses qu'on a expérimentées dans les premiers développements des bancaires, où en fait les banques prévoyaient des dispositions si jamais les fonds n'étaient pas disponibles, de compenser les utilisateurs. Et j'aimerais bien qu'effectivement se mettent en place des espèces de codes de conduite à l'intérieur du système pour qu'effectivement ça se passe mieux dans le futur. Non. Mais voilà, une crise, ça s'évite pas quand on grossit aussi vite. Je reste quand même optimiste, mais en effet, ça fait partie de l'apprentissage, ouais. Et il a un coût, cet apprentissage. Je ne m'ignore pas. Mais voilà.
On se souvient 1999, la bulle Internet. Ben, voilà. C'était en fait le début de l'histoire d'Internet. C'était pas du tout la fin. Et moi, je suis convaincu que c'est le début de l'histoire et pas la fin. Même si je préfère le mot actif au mot monnaie. Bon alors, 3 minutes 20. Oui. Je ne comprends pas pourquoi les banques centrales, et notamment la BCE, veulent mettre en place une devise numérique. Une devise numérique banque centrale. Si ce n'est pour se passer du système bancaire commercial, voire pour éliminer le cash, mais je ne vois pas à quoi ça sert. Qu'on me dise que c'est pour avoir une devise concurrente, justement, des cryptos, je ne suis pas convaincu.
Alors, sur ce sujet-là, oui, alors je vais essayer d'être synthétique aussi. En fait, il y a deux problématiques ici sur les devises de banque centrale. Il faut savoir que tant qu'il n'y avait pas eu le projet de Facebook avec Libra,
oui.
Les banques centrales occidentales ne s'étaient pas et se préoccupait très lointainement de ce sujet. Éventuellement, sur les règlements sur le marché de gros, on en entendait déjà parler, de monnaie banque centrale sur le marché de gros, c'est-à-dire qu'en fait, on va digitaliser la monnaie qui est actuellement utilisée sur le règlement
des transactions. Mais elle est déjà complètement dématérialisée.
Oui, mais c'est une étape supérieure, parce qu'en fait, on accélère en fait, avec une monnaie sur des ledgers, en fait, on accélère en fait, la vitesse de transaction, en fait, sur les paiements interbancaires. Donc en fait, et là, c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé la Banque de France avec sa deuxième phase. C'est ça. En fait, c'est sur la monnaie de gros. Parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent sur cette question.
C'est pour gagner du temps qu'on va avoir
exactement.
Une devise numérique.
Et sur le temps et le coût.
D'accord.
C'est les deux.
C'est technique, quoi.
Oui, c'est technique, parce que c'est le propre de la blockchain, c'est qu'elle fait les choses plus rapidement.
Quand je parle avec certains et que je leur dis, mais c'est pas tout simplement pour essayer un jour de supprimer le cash. Alors, j'ai l'impression que c'est le rêve ultime du banquier central, quoi.
Je ne sais pas, mais en tout cas, ça c'était déjà dans les cartons. Le fait qu'il y ait eu Libra a fait prendre une autre dimension, c'est qu'en fait, c'est on vrai. Pouvait avoir une monnaie stable privée qui vienne concurrencer la monnaie, nos monnaies souveraines. Et là, les banquiers centraux se sont dit, oulala, mon Dieu, il va peut-être nous arriver une tuile. Et c'est parce que la Banque Centrale Chinoise s'est beaucoup énervée et qu'elle a pris le lead que les autres banques centrales se sont trouvées, enfin en tout cas c'est mon interprétation, un peu forcées à dire, il va falloir que j'ai une réponse parce que sinon je vais perdre la main sur
mais
ça, si jamais...
au début, c'est fait pour contourner tous les intermédiaires. Et donc, je ne vois pas pourquoi la Banque Centrale... si vous voulez contourner les intermédiaires...
Non, là, c'est vraiment la digitalisation. Par exemple, si tu prends la Banque de Suède, elle avait déjà cette problématique parce que en Suède, en fait, on paye très peu avec des moyens, on paye directement. Donc, on avait vraiment une baisse. Le cash représentait elle ne représente plus que 10 à 15%. C'est vraiment extrêmement bas. Et donc, là, ça posait le problème du fait qu'en fait, finalement, les paiements étaient majoritairement gérés par des fournisseurs privés. Et ils se sont dit, il faudrait peut-être quand même qu'on continue à avoir la main.
On supprime des intermédiaires, en fait.
Et voilà, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'elles voulaient avoir une digitalisation, en fait, de leur monnaie.
Bon, on refera, parce que là aussi, c'est que le début.
C'est que le début.
Il y a Monsieur Fusion qui m'écrit, Macron est schizophrène. Il mène une politique de subvention interventionniste proche du soviétisme, et en même temps, on serait ultra-libéraux sur l'assurance chômage.
Ça, c'est clair.
Résoudre le chômage passera par la réforme de Pôle emploi. Ils sont à côté de la plaque. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est Emmanuel Le Chip que vous allez retrouver pour les 15 prochains jours.
Je passe de l'autre côté du miroir.
Aux manettes de l'émission.
Voilà.
Nathalie Janson, merci.